Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enquête d'Europe, l'émission radio animée par les étudiants et étudiantes en master de sciences politiques de l'Europe à l'Université de Nantes. Je me présente, je suis Marie Bayeux et je suis accompagnée de Chloé Morel. Bonjour Chloé.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
Dans le cadre de cette émission consacrée aux questions et enjeux européens, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un épisode spécial pour discuter de notre sujet, le glyphosate et ses controverses au sein de l'Union européenne. Pour tenter de répondre aux interrogations soulevées par notre sujet, nous sommes en compagnie de Hugo Bessière, élu local départemental de Loire-Atlantique. Bonjour Monsieur Bessière.
Bonjour Marie, bonjour, merci pour l'invitation.
Hugo, vous êtes conseiller départemental de Loire-Atlantique et vous agissez surtout dans la protection du foncier agricole et de la relocalisation des cantines scolaires afin de promouvoir une alimentation plus saine, durable et locale. Vous êtes également membre de la commission transition écologique et résilience des territoires et vous êtes élu depuis 2021 au département et vous faites partie du groupe écologiste. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui.
Donc pour cette émission, nous avions un deuxième invité, Vincent Caillon, qui n'a pas pu être avec nous, mais que nous avons néanmoins entretenu à propos du glyphosate et de ses controverses dans l'agriculture. Donc Vincent Caillon est un agriculteur nantais biologique. Jusqu'en 2017, il a été agriculteur traditionnel et a donc utilisé pendant plusieurs années des pesticides, puis a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique. Aujourd'hui, en plus de vendre ses produits à des restaurateurs sur les marchés ou en vente directe sur son exploitation, il s'est associé avec des étudiants pour vendre ses produits sur les campus. Donc pour introduire notre sujet, le 16 novembre 2023, la Commission européenne renouvelle l'autorisation d'utiliser le glyphosate pour une période de 10 ans, utilisation qui devait prendre fin en 2023. Cette décision résulte de l'absence d'accord entre les États membres quant à la reconduction ou au rejet de l'autorisation du glyphosate. Mais qu'est-ce que le glyphosate ?
Alors, le glyphosate est une substance chimique utilisée dans la fabrication des herbicides. En tant que désherbant, il est principalement utilisé pour détruire les plantes considérées comme indésirables. Il a la propriété d'être total et systémique, c'est-à-dire qu'il agit sur la totalité du système de la plante. C'est pourquoi il est utilisé aussi bien en arboriculture ou en viticulture que pour l'entretien des espaces industriels, comme les lignes de chemin de fer par exemple. C'est une molécule qui a été découverte dans les années 50 par le scientifique suisse Henri Martin. Elle est utilisée depuis les années 70 par la multinationale Monsanto, qui l'a brevetée en 1974 et depuis, elle a été commercialisée massivement sous le nom de Roundup. Et la molécule est depuis les années 2000 tombée dans le domaine public. Elle est désormais fabriquée et commercialisée par un grand nombre de sociétés.
Donc tout l'enjeu de notre sujet est la prolongation de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans jusqu'en 2033, alors que la molécule devait être interdite. Nous allons donc voir aujourd'hui pourquoi ça porte à controverse au sein de l'Europe entre les agriculteurs et les consommateurs, pourquoi hésite-t-on entre l'interdire et le réautoriser, que signifie la prolongation de l'utilisation du glyphosate en Europe. Et donc pour commencer, nous allons parler de la réglementation et de la législation européenne, nationale et locale. Les pesticides sont réglementés au niveau européen, c'est-à-dire que l'Union européenne va autoriser ou non la commercialisation de la molécule et la quantité de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Et donc, outre l'Europe, les États membres peuvent aussi mettre en place des objectifs donc pour limiter l'utilisation des pesticides et viser une sortie, comme la France avec le plan Ecophyto de plus, par exemple, et avec comme objectif une diminution de 50% de pesticides en France d'ici 2050 et une sortie du glyphosate. Or, il y a une mise en pause du plan glyphosate avec la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. Et donc, est-ce qu'il existe au niveau de la métropole et du département un plan éco-phyto dans le sens où l'environnement et la santé sont placés en priorité ?
Bonjour. Déjà, je préfère situer d'où je parle. Donc, je ne suis pas un expert des produits phytosanitaires, autrement dit pesticides, ni un connaisseur aguerri de la strate européenne. Pour autant, je suis conseiller départemental, élu local, sur l'agriculture et l'alimentation. Et donc, nous avons bien entendu suivi ces sujets. Au niveau local, la réglementation qui s'applique, c'est la réglementation nationale, donc définie par les les lois et le gouvernement, et donc la loi européenne qui, elle, est supérieure aux législations nationales, en tout cas sur ces sujets de pesticides, et qui passe donc par un processus d'évaluation scientifique via l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et donc sa déclinaison française qui est l'ANSES. Aujourd'hui, il y a, il me semble, depuis 1999 à peu près, plus de 700 substances qui ont été interdites par l'EFSA et donc de fait par la France. Le glyphosate aujourd'hui, donc vous l'avez mentionné, n'en fait toujours pas, malheureusement selon moi, partie, puisque c'est quand même une molécule dont l'utilisation a été multipliée par 100 en 40 ans, de 1974 à 2000 pour le Roundup de Monsanto, et aujourd'hui les brevets sont ouverts à d'autres entreprises. Donc c'est quelque chose qui est généralisé mondialement, dans notre pays aussi, et pour autant qui n'est toujours pas interdit. Alors, il y a une loi en 2014, la loi d'un sénateur, il était écologiste, Joël Labbé, qui a interdit le Roundup, ces molécules, pour les jardins privés et pour tout ce qui est entretien des espaces verts municipaux. Donc de fait, aujourd'hui, dans les communes, les métropoles, les municipalités, ce type de produit est interdit et il faut faire autrement. Ce n'est pas le cas pour les pratiques agricoles, mais en tant que conseiller départemental, en tant que département, nous n'avons pas la possibilité d'interdire une pratique pour une agriculture. Nous avons par contre la possibilité de favoriser, d'encourager par la commande publique, par le récit qu'on raconte, par l'éducation dans nos cantines. Nous avons plus de 84 collèges avec 34 000 repas jour. Donc là, nous avons un levier, par contre, pour agir. Mais sur la législation en tant que telle, nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui. Même sur les zones de captage qui sont fragilisées par certains pesticides sur la Loire-Atlantique, je le rappelle, 1% de bonne qualité des états des eaux dans le département, nous n'avons pas la possibilité, c'est le préfet, donc l'autorité de l'État qui a cette légitimité. Voilà.
En tant qu'élu, est-ce que vous pensez que l'Europe, elle régule suffisamment les pesticides ? Est-ce qu'elle devrait être plus stricte, moins stricte ?
Alors c'est un débat qui est complexe, hein, parce qu'il y a tout un processus d'analyse, de confrontation scientifique par la preuve, d'évaluation de ces aliments. Il y a donc ces institutions européennes et françaises qui sont normalement en maîtrise de ce sujet. Ce qu'on peut observer, c'est depuis que l'Europe s'est au moins intéressée à ce sujet, des substances ont été interdites. Donc, on peut se féliciter déjà que ce processus existe, que cette démarche existe, et que 700 molécules ont déjà été interdites, sinon elles se retrouveraient dans nos eaux, etc., etc. Maintenant, on sait que ce processus peut faire polémique. Je ne sais pas si chacun d'entre nous a vu Le Monde selon Monsanto, le film de Madame Robin, Dark Waters sur le téflon, à l'époque c'était le scandale de Tefal. Voilà, il y a toute une série de films aujourd'hui, d'enquêtes journalistiques, il y avait un numéro de complément, d'envoyé spécial sur les glyphosates, qui montre comment aujourd'hui un grand groupe comme Monsanto a pu influencer, orienter, voire, de ce que j'en comprends en tout cas dans ce qui nous est accessible comme information, écrire à la place de des études prouvant que les molécules n'étaient pas dangereuses. Alors, il ne s'agit pas de dire que toute molécule est dangereuse de fait, faisons confiance au processus scientifique, mais quand on voit qu'à chaque fois dans ce genre de procédure, des experts soi-disant indépendants se retrouvent en fait en porte-à-faux dans des affaires qu'on pourrait appeler les Monsanto Papers, ça interroge beaucoup. Et ça me rappelle largement tout le scandale sur les cigarettes et l'industrie du tabac, où on a mis des années à montrer l'aspect cancérigène aussi du tabac, pour l'interdire finalement dans les zones publiques, etc. Aujourd'hui, personne ne remettrait ça en question aujourd'hui, mais il y a quelques années, on vous riait au nez par rapport à ça. Et ça, c'est un livre qui s'appelle « La construction, la fabrique du doute », de sociologues qui ont montré comment les proximités des relations entre le monde des grandes entreprises et certains scientifiques, ça existe. Voilà. Après, de là à dire que tout le monde est corrompu, non. N'allons pas dans cette démarche-là. Pour autant, je pense que ça a mis des freins, des bâtons dans les roues, à tout le travail associatif et des ONG environnementales et de santé qui ont prouvé quand même la dangerosité de ces substances. Et je rappelle que c'est l'ONU elle-même, via le Centre international de la recherche sur le cancer, qui avait émis le fait que le glyphosate était cancérigène. Donc ce n'est pas une ONG environnementale, là, c'est l'ONU. Voilà.
Oui, bien sûr. Nous reviendrons un peu plus tard sur la fabrique du doute, parce que c'est un gros sujet qu'il est important d'aborder. Mais concernant l'Europe, moi j'aurais aimé ça si vous pensez que Les régulations européennes mènent à une harmonisation des réglementations dans les pays membres. Et est-ce que, du coup, ça aussi pousse à ce que les pays agissent plus de leur côté en s'harmonisant ou justement en s'éloignant du modèle européen?
Alors, c'est toujours ça qui est complexe avec l'Union européenne, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'harmoniser les normes, justement pour éviter le moins-disant, la concurrence déloyale, etc. Donc sur ces produits-là, quand l'Autorité européenne de sécurité des aliments émet un avis, il vaut, il me semble, je ne suis pas un expert, mais il vaut pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Maintenant, chaque pays est légitime nationalement aussi sur sa législation. Et de fait, il y a sans doute certains produits qui seraient interdits dans certains pays, mais pas au niveau de l'Union européenne. Donc l'État membre reste aussi, il y a une marge de manœuvre dans ce processus-là. Il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord sur une harmonisation de ces produits, mais pour moi, d'un point de vue d'un élu écologiste local, sur le plus possible d'interdiction de substances qui nuisent à l'environnement, pour justement favoriser un autre modèle agricole alternatif qui passe bien évidemment par les structures agroécologiques, par le soutien à une agriculture biologique au niveau de la politique agricole commune. C'est quand même 9,5 milliards d'euros, je le rappelle. Donc quand on dit que la bio est plus chère, n'oublions pas qu'il y a une distorsion de concurrence massive de 9,5 milliards d'euros, et je rajoute les 4 milliards d'euros du gouvernement français aussi. Donc voilà, cette harmonisation au niveau européen, on a bien les signes de qualité aussi qui est harmonisé au niveau des pays européens sur les produits en Europe. Donc sur la sécurité des aliments par rapport aux habitants, aux citoyens de l'Union européenne, il serait logique que cette harmonisation s'applique partout, voilà, la même loi partout, quoi.
Donc comme on l'a rapidement abordé tout à l'heure, au niveau local, la métropole, le département donc, suivent la réglementation nationale. Et donc, en matière d'usage non agricole, l'utilisation du glyphosate par les collectivités dans les espaces ouverts au public a donc été interdite en France depuis le 1er janvier 2017. Et donc, depuis 2017, est-ce que vous savez quelles alternatives la métropole et le département ont-elles mis en place, par exemple pour l'entretien des espaces verts et espaces publics? Et qu'est-ce qui remplace aujourd'hui les pesticides, par exemple?
Alors, ça, je... Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à votre question parce que je ne suis pas élu à la métropole de Nantes, je suis élu au département, et le département n'a pas la compétence des espaces verts. C'est vraiment la ville et la métropole qui ont la compétence des espaces verts. Pour autant, en termes d'alternatives, il existe des produits plus naturels qui sont utilisés pour désherber, et puis le désherbage mécanique. Tout simplement, hein, le désherbage mécanique. Et je crois qu'aujourd'hui, les équipes se sont bien adaptées, puisque apparemment, ça fonctionne très bien sans les produits. Et les agents n'ont plus besoin aussi de se protéger par rapport aux produits qu'ils pourraient utiliser. Voilà. Récemment, d'ailleurs, le jardinier de la ville de Redon, j'ai vu ça, a gagné un procès aussi par rapport à l'utilisation de Roundup dans l'entretien, je crois, c'était des écoles primaires sur le désherbage. Il avait la maladie de Parkinson, donc c'est une des maladies qui apparemment est reconnue aujourd'hui comme étant directement une conséquence de cette utilisation. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre précisément pour la ville de Nantes et la métropole qui a cette compétence-là, mais il me semble, d'après ce que je peux voir du travail de mes collègues, que la transition, pour le coup, s'est faite très bien, quoi. Mais sur les techniques précisément utilisées par les employés, je ne pourrais pas vous répondre.
Vous avez mentionné des procès, de nombreux procès ont lieu justement en France ou internationalement concernant les conséquences que les personnes subissent après avoir eu une utilisation des produits phytosanitaires. Et ça mène à créer, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, une fabrique du doute parce que le corps scientifique, vous l'avez vous-même très bien dit, le corps scientifique et journaliste, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a le Centre international de la recherche sur le cancer qui donne un avis en accord avec ce que le docteur Serralini, ils ont déclaré tous les deux que ces deux entités, le docteur Serralini et le CIRC, ont déclaré tous les deux que c'était dangereux. Mais d'un autre, il y a l'EFSA qui déclare que c'est pas, en se basant sur d'autres études, que c'est pas cancérigène. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qui suivent, comment ne pas créer un débat public dans l'espace public face à deux entités qui ont l'air très sérieuses et très, alors, faire leur recherche pour savoir comment faire.
C'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas forcément la réponse. Je crois que on vit dans un monde où l'information est de plus en plus remise en question, donc il faut faire attention déjà aux sources sur lesquelles nous allons nous renseigner, et puis faire confiance à la démarche scientifique. Maintenant, quand on regarde le scandale de l'amiante, quand on regarde le scandale sur le téflon, les autorités n'émettaient pas d'avis défavorable à ce moment-là. Donc parfois, il faut des années pour prouver aussi quelque chose sur des études qui prennent du temps, en fait. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui encore, on se rend compte que quand on fait des analyses de l'eau en Loire-Atlantique, le syndicat Atlantico a fait des analyses, on retrouve 33 molécules, dont 7 venant d'herbicides. C'est des molécules qui ne sont pas contrôlées. Donc en fait, l'étendue de la recherche, on peut circonscrire une recherche à l'objet qu'on veut aussi. Et quand on cherche, on trouve. Et plus on va élargir le champ, plus on va trouver aussi d'autres molécules. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et c'est vrai que aujourd'hui, les études du professeur Gilles Serralini, quand on voit comment ce scientifique a été désavoué à un moment par des institutions, alors que son étude portait sur une population, la plus grande population de rats qui avait été expérimentée sur les pesticides, enfin en tout cas sur le glyphosate, ça porte à question. Il y a une démarche très intéressante qui est en cours, qui s'appelait Secret toxique, qui est un film qui a été tourné sur cette question-là de comment finalement on construit les études et comment on arrive à des conclusions derrière sur ces études. Moi, j'aurais tendance à dire, appliquons un principe aussi de précaution. Nous savons que l'utilisation chimique aujourd'hui... Alors, là, on parle de la santé humaine, mais on pourrait aussi parler de 76% des insectes qui ont disparu en 30 ans, de 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en Europe, la pollution des eaux en surface, je le rappelle, en Loire-Atlantique, 1% de bonne qualité de l'eau. Voilà, ça s'arrête pas non plus à la santé humaine, et il nous semble aujourd'hui que nous avons un ensemble de preuves assez satisfaisantes pour faire autrement. Et en plus, on peut faire autrement. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on peut faire autrement. Donc, par principe de précaution, arrêtons de recourir à des molécules qui menacent le vivant et pas que la santé humaine, je le rappelle, et allons vers des pratiques sans ce type de molécules.
Vous avez mentionné le fait qu'il faut regarder les études, mais on sait que, par exemple, Monsanto, ils ont pesé en tant que groupe d'intérêt, ils ont pesé aussi en faisant du ghostwriting et en payant certains scientifiques. Est-ce que, pour vous, ils ont du coup pesé pour faire en sorte que l'Union européenne continue d'autoriser le glyphosate sur son territoire ?
Au vu, en tout cas, des informations disponibles, donc vous faites référence aux révélations du documentaire Envoyé spécial. Clairement, oui, ils se sont mobilisés fortement pour organiser un contre-discours pour faire en sorte de ne pas perdre des parts de marché. Ça me paraît tout à fait clair. Enfin, ça représente des sommes colossales d'argent, et surtout en Union européenne où l'agriculture est très présente. Donc, d'après ce reportage et les preuves qui ont été amenées par ces journalistes, on peut en conclure aujourd'hui que, d'après les mails, etc., que oui, clairement, il y a eu tentative d'orienter les choses de la part de la multinationale.
Du coup, pour en revenir à la dangerosité du glyphosate, Vincent Caillon nous a confié que tout utilisateur de glyphosate sait que le glyphosate et que les produits phytosanitaires sont dangereux pour l'applicateur comme pour le consommateur et également pour l'environnement. Et donc, comme on l'a dit, là pour Monsanto, par exemple, en fait, il y a controverse de par la potentielle dangerosité, mais en même temps, le glyphosate sert à accroître les rendements et à faciliter le travail des agriculteurs. Et donc, c'est au sein de cette controverse qu'entrent en jeu donc, les groupes d'intérêt. Et donc l'Europe est, comme on le sait, une zone où les groupes d'intérêt sont très présents, donc légalement, et ils sont très écoutés. Et donc est-ce que ce sont les lobbies qui ont réussi à influencer l'Europe pour obtenir la prolongation de l'autorisation du glyphosate en novembre 2023 ? Est-ce que ce sont aussi les lobbies qui ont permis un assouplissement des réglementations sur les pesticides suite au mouvement des agriculteurs le 18 janvier 2024 ?
Je vais tenter de répondre à votre question. Déjà... Je pense qu'on parle souvent de l'Union européenne comme le sacerdoce des lobbies. Mais il faut savoir quand même que l'Union européenne a mis en place des démarches de transparence où on peut voir aujourd'hui quel lobby rentre dans le Parlement, rentre à la Commission, il y a un registre. Et en fait, cette transparence aussi des mécanismes de pression, des ce que vous appelez groupes d'intérêt, qui s'organisent à Bruxelles et ailleurs pour peser sur le processus de législation, il est connu. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il se passe la même chose chez nous, à Paris, avec des cabinets spécialisés qui accompagnent des groupes pour faire valoir leurs intérêts auprès de la législation nationale. Donc ce qui se passe à Bruxelles vaut aussi à Paris. Et peut-être qu'à Bruxelles, on en parle plus parce que c'est transparent. Donc ça, c'est le premier point déjà que j'aimerais rétablir. Ensuite, il est certain qu'aujourd'hui, les groupes d'intérêt ont une influence sur le processus. Ils sont conscients de toutes les strates. Ils ont des moyens financiers pour s'organiser, pour peser. On sait qu'aujourd'hui, la FNSEA a aussi payé des cabinets d'études pour peser auprès de Bruxelles, etc. Maintenant, de faire un lien direct avec le gouvernement, etc., je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les intérêts convergent. Ce sont des acteurs qui ne veulent pas que le monde change. Ils n'ont pas intérêt à ce que le monde change. Les uns pour leurs intérêts économiques, les autres pour des intérêts soit électoralistes, soit de répondre à une crise en faisant le en même temps. C'est-à-dire promettre des choses, par exemple sur Ecophyto, et puis d'abandonner tout le jour où finalement les agriculteurs se mobilisent sans leur proposer de solutions alternatives. On suit un peu le vent, quoi. Donc je dis pas qu'il y a des liens entre les personnes. Je dis simplement qu'il y a une convergence d'intérêts à un moment et que ça crée ça. Et malheureusement, derrière, toutes les autres idées alternatives, les autres projets de société qui sont réalisables peinent à se faire entendre dans les médias, peinent à exister. Pourtant, on a la preuve aujourd'hui qu'on pourrait faire autrement.
Mais du coup, s'ils ont réussi à peser, l'Union européenne, elle est passée outre son principe de précaution ?
Bah, je ne sais pas. qu'est-ce que vous appelez principe de précaution ?
C'est un principe de précaution, c'est lorsque, si on n'est pas sûr de la non-dangerosité d'un produit, on ne l'autorise pas.
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui, donc la définition de base du principe de précaution. D'accord.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a le principe de précaution et après, il y a comment la société fonctionne et que si on interdit aussi à un moment un produit qui fait tenir tout un secteur sans penser sa transition, c'est compliqué. Donc, faut quand même le rappeler. Mais oui, dans ce cas-là, elle a passé outre le principe de précaution en n'organisant pas une façon de faire différente. Voilà. Mais je voudrais pas laisser penser que le principe de précaution pourrait juste dire on arrête tout d'un coup, par précaution. Il y a toujours un écosystème à prendre en compte avant de prendre une décision.
Pour finir notre émission, j'aimerais aborder un dernier point, enfin vous poser une dernière question. Vous faites partie du groupe écologiste au département. Est-ce que vous connaissez la position d'Europe Écologie Les Verts ou même simplement du groupe écologiste du département sur le sujet du glyphosate ? Et est-ce que Écologie Les Verts, au niveau européen, travaille à plus de régulation en termes de... Du coup, est-ce qu'ils ont de l'influence en termes de groupe d'intérêt ? Est-ce que ce sont aussi un groupe de pression ? Et est-ce que, en tant qu'élu au département, vous avez avec votre groupe une influence au niveau de l'Union européenne sur toutes ces réglementations ?
Alors la position, elle est assez claire. Hein. C'est un arrêt, dès que possible, maintenant, tout de suite, il y a 20 ans, du glyphosate et de faire autrement, notamment en promouvant l'agriculture biologique. C'est ce que nous faisons au département. Nous avons donc 84 collèges, 34 000 repas jour. Nous passons à 23% de produits bio locaux dans la cantine scolaire. Nous avons installé sur les péans les périmètres d'espaces agricoles et naturels, c'est-à-dire des zones que nous protégeons, qui restera à l'agriculture à vie, sauf si trois ministres décident de changer l'utilisation du sol. Donc on protège ces terres de l'artificialisation. Et nous essayons d'installer un maximum, le plus possible, d'agriculteurs avec des pratiques qui permettent de respecter la santé des humains, la qualité de l'eau, et donc des produits qui pourraient arriver aussi derrière dans nos collèges. Donc la position, elle est claire. Maintenant, il ne s'agit pas de stigmatiser des personnes qui ont été aussi tributaires d'un système après-guerre. Il y a une histoire derrière. Hein. C'est pas comme ça que les gens choisissent de changer leurs pratiques. Et donc, il s'agit plutôt que de stigmatiser, de reconnaître Le métier d'agriculteur, qui est un métier difficile aujourd'hui, hein, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont à moins de 600 euros par mois. Donc quand on leur dit qu'en plus, leurs pratiques font du mal aux vivants, bah, c'est difficile à vivre et on comprend bien leur réaction. Donc moi, je suis plutôt pour que le public, l'État, l'Europe, donc la PAC, 9 milliards d'euros, je le rappelle, l'État, 4 milliards d'euros, les collectivités avec leur levier de commande publique locale dans la restauration collective, mais dans la protection du foncier, agissent chacun et chacune à leur niveau pour faire valoir les rémunérations des producteurs et donc arrêter de faire peser l'agriculture biologique simplement sur la demande des consommateurs, qui en période de crise n'ont malheureusement pas forcément toujours les moyens. En plus, il y a le prix du logement qui explose, donc ils rabotent l'alimentation, parce que le logement, ils ne peuvent pas le raboter. Et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est payer les services rendus par ces agriculteurs qui font l'effort à la nation. Pour moi, ce sont des services d'intérêt généraux à la nation. Ils prennent soin de l'eau, ils prennent soin des sols. Il faut savoir que 98% de nos sols sont pollués aux pesticides aujourd'hui. Ils prennent soin de l'air, ils prennent soin des enfants, ils prennent soin de... Voilà. Donc, la Suède l'a fait. Hein. Elle est passée de 7% de surface bio il y a 10 ans à 25% aujourd'hui. On n'est que à 10% en France aujourd'hui. Donc, à un moment, c'est par la relance keynésienne, par une intervention du public, que cette transition peut se faire. Elle ne pourra pas se faire simplement en faisant reposer sur les consommateurs, à moins peut-être, pourquoi pas, de mettre une TVA à 0% sur les produits biologiques. Donc voilà, vous voyez que c'est quelque chose d'assez complexe, mais on a des leviers. Maintenant, il faut du courage politique, à un moment. Hein, il faut du courage politique pour faire changer un système et faire évoluer vers l'agriculture qui aujourd'hui reste productive. Hein, je le rappelle, hein, Jacques Capla, un agronome, a écrit un livre à ce sujet. L'agriculture biologique est tout à fait aussi peut-être tout à fait aussi productive. Alors ça dépend des produits hein, que l'agriculture conventionnelle. Maintenant, c'est embarquer les gens et les agriculteurs vers ces solutions.
C'est beaucoup plus complexe qu'une simple molécule. Malheureusement, l'émission elle touche à sa fin. Nous tenions à remercier Monsieur Hugo Bessière d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci également à Monsieur Vincent Caillon de nous avoir accordé un entretien au préalable et aux équipes de radio de nous accueillir. Bonne journée. C'était Chloé Morel et Marie Bayeux dans
Enquête d'Europe.
Merci.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.